Bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui commente les films en plan séquence à la sortie.
Ou au moins on fait semblant.
Si j'entends la moindre coupe, eh ben dans le prochain épisode je te ferai la remarque.
Non mais si, à un moment on va passer dans un tunnel, tu vas voir. L'air de rien.
Petit joueur quoi, la fausse note d'intention technique là.
Aujourd'hui on va voir un gros plan séquence, on va voir 1917 de Sam Mendes, gros film événement sur la Première Guerre mondiale, un plan séquence de 2 heures, on nous a annoncé, on va voir ce que ça donne. Un film sensationnel avec un format assez peu vu, et ça tombe bien parce qu'on est en train de tester un nouveau format, vous l'avez déjà expérimenté, vous l'avez déjà aperçu si vous l'avez entendu l'émission précédente, qui a eu quelques ratés, mais bon, voilà, c'est la guerre, c'est terrible. On réexpérimente cette fois-ci, donc... On reprend le format de commenter à la sortie les films. Après, c'est compliqué de voir tous les films en même temps, tous ensemble, n'est-ce pas Thierry ?
Tout à fait.
Du coup, bon, ben, des fois, on va voir des films séparément. Des fois, on se fait des infidélités au podcast. Et quand on ne peut pas les voir directement à la sortie, ben, on en parle à la fin de l'émission, plus tranquillement. Voilà. Cette semaine, quels films avons-nous vu en format long, directement à la sortie ? On a vu, alors je l'ai dit, 1917, mais aussi...
Mais aussi Swallow de Carlo Mirabella Davis.
Avec Hera qui nous rejoint exprès pour ce film-là. Et Selfie également, de Plein de Réal, parce que c'est un film à sketch, comédie française, parce qu'il faut toujours une comédie française dans claque, toujours. Et ensuite, les rattrapages de la fin de semaine. Ça m'a l'air d'être un programme appétissant, n'est-ce pas Thierry ?
Toujours, toujours.
À table ?
Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
Let's talk about this for a minute.
Why? We've got orders to cross here.
That is the German front line.
Hold back!
If we're not clever about this, no one will get to your brother.
I will.
L'équipe de claque, toujours sur le front. Les deux poilus de la team, Thierry.
Hey you.
Et moi, Thomas. On est allé voir 1917 de Sam Mendes. Film de guerre. Bon, ça, on s'en doute un poil. Hein, on s'en doute un petit peu. Poil, poilu, oh là là. On va couper ça tout de suite. On s'en doute un petit peu. Film, un des favoris des Oscars. Une dizaine de nominations. Je sais que t'aimes pas les Oscars, mais bon, voilà. Golden Globe du meilleur drame. Et du meilleur réel. Mais quel putain de claque visuelle.
En effet, donc j'en ai rien à foutre. En effet, des prix, s'il en gagne, c'est bien. S'il en gagne pas, tant pis. Par contre, on peut tous reconnaître que c'est un excellent film. Et ça, c'est très bien.
2 heures de pseudo plan de séquence. Mais on va suivre le héros en continu pendant 2 heures. Un caporal qui va devoir transmettre un message à travers les lignes ennemies pour annuler un assaut. Pour éviter à tout un bataillon de tomber dans un piège.
Voilà, donc c'est vive le plan galère. Déjà, tu te dis, putain, merde, c'est... Ah non, mince, ils vont dans un piège et c'est les mecs qui sont tout au fond, super loin, qui ont appris l'info. Bon courage, quoi. Et ouais putain, c'est quand même l'histoire de 2 gars qu'on envoie à la mort, quoi. C'est parce qu'au début, les gars, ils les envoient où ils doivent passer d'abord dans les tranchées ennemies, donc ils doivent passer le No Man's Land depuis la ligne de front. Enfin, déjà, ils doivent atteindre la ligne de front, puis passer le No Man's Land, sans savoir si les troupes ennemies sont là ou pas. Il y en a qui disent, elles se sortiraient. Ils disent, on sait pas, les mecs en gros ils vont se faire tirer comme des lapins quoi. C'est assez dingue ne serait-ce que ce postulat là. Et oui en effet, donc voilà comme tu le dis, on les suit pendant, enfin on suit le personnage pendant 2 heures avec son acolyte. Et c'est dingue la manière dont c'est foutu. C'est un enchaînement voilà, de plans séquences. Ça a beau être un faux plan séquence, peu importe, parce que c'est quand même un enchaînement de plans excessivement longs à chaque fois. C'est super bien foutu. Moi j'avais peur qu'on voit beaucoup trop les raccords et la manière dont c'était axé. Au début ça m'a fait un peu ça quand il marche dans la tranchée et que par exemple la caméra le suit derrière, il va se mettre à parler à quelqu'un, donc là pof, le mec qui tient la steadicam, il va pouvoir tourner autour des gars, et là après il recule, donc du coup après on le voit de face. C'était des petits artifices comme ça où il y avait des dialogues qui étaient un peu ajoutés qui servaient pas à grand chose pour pouvoir justement faire en sorte que l'angle de caméra change pour pouvoir ne pas couper, donc l'exercice jusqu'au boutiste.
C'est un exercice qu'on avait vu déjà dans le James Bond Spectre, réalisé par Sam Mendes toujours. Ouais. Au début, il jouait un peu comme ça, ouais. Il avait fait ces artifices-là, il avait joué un peu avec ça. Mais là, on a ça sur deux heures.
Quoi. C'est ça, tout à fait. Mais au final, en fait, une fois que t'es pris dans le truc, au début, c'est vrai que tu le remarques un petit peu. Une fois que t'es pris dans le truc, vu que le film est un enchaînement de gros climax et qu'il y a des passages extrêmement forts, qui sont eux, pour le coup, filmés en plan séquence totale, enfin comme le reste du film, ça fait que le reste du temps, cette espèce de plan séquence qui pourrait sembler putassier, qui pourrait sembler très tape à l'œil, tu le remarques plus. Les passages évidemment qui te claquent l'œil, qui sont des passages d'action, des passages de fuite monstrueux. Moi je pense à la ville de Ekoust, c'est ça, où il y a une fuite dans la ville d'Ekoust la nuit. Et moi j'étais là, mais j'étais gorgé d'adrénaline à sa place, quoi.
Et les plans dans cette ville, parce que quand il arrive dans le village, c'est un village quoi, et au début il y a des flares, enfin il y a des torches. Des fusées éclairantes, voilà, qui éclairent le village. On a l'impression que c'est une illumination, que c'est un beau spectacle et tout. On est en admiration. Et puis, paf, il y a une étincelle, il y a un coup de fusil. Putain, merde, c'est la guerre. On oublie l'illumination, les 30 secondes. Et on part se planquer et on repart dans l'action. On est replongé immédiatement. Et l'horreur, enfin, la peur succède à la féerie. Il y a un enchaînement d'émotions comme ça. Alors là, on a une nuit de 10 heures, de 14 heures qui est résumée en 2 heures de film, parce, évidemment pour tenir. Mais on a une densité dans les émotions. Il y a un passage, une subtilité aussi dans le passage, dans la transition. C'est un film qui est très travaillé en amont.
Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, voilà, tu as ces passages qui vont justement te taper dans l'œil et qui sont extrêmement visuels, extrêmement fournis, extrêmement riches et maîtrisés, mais d'une façon folle. Et ce qui fait que le reste du temps, tu te rends même plus compte que c'est en plan séquence et tu te laisses bercer par le rythme, en fait, qui est un rythme qui est constamment soutenu, quoi. C'est impossible de pas être happé dedans. Moi, c'est ce que je me suis dit dans le film. En fait, j'ai fait non. En fait, ils envoient trois personnes, quoi. La troisième personne, c'est toi. Étant donné que tu ne lâches pas, que t'as pas le montage, que t'as pas ce côté-là, donc tu n'as plus l'illusion du cinéma. Tu es en train de mater un immense documentaire devant toi, ou mais sur un gars qui va fuir pendant deux heures, quoi.
Moi, ça me fait penser à un jeu vidéo presque.
Oui, presque. Ouais. Oui, j'avais un moment où je me disais putain, ça en jeu vidéo, tu joues à Call of World War One. Dommage que le jeu était nul, parce que du coup s'il aurait cette gueule là il serait bien. Mais ouais, non, c'est ça. Mais c'est dingue parce que tu te dis, ouais, il y a de la maestria. Moi, il y a le passage où il est sur le point d'arriver, de pouvoir réussir à donner son ordre, du coup, enfin de pouvoir expliquer que l'ordre c'est de ne pas donner l'assaut. Il se rend compte qu'il n'arrivera jamais à traverser la tranchée, et du coup le mec il se met carrément en première ligne au-delà du no man's land, en mode bah, je vais courir, quoi. Et à ce moment-là, il donne l'assaut. Alors donc du coup, tu as la caméra en fait est rythmée par tous les soldats qui courent. Donc du coup, les mecs, t'imagines, t'as un gars qui est en train de courir et t'as de l'autre côté donc la caméra qui est en train de reculer. Donc là, sûrement sur un travelling ou un truc. Et
alors, c'est un extrait qui est utilisé en promo. C'est le money shot. Hein.
C'est le money shot, ouais. Et non, et voilà. Et donc du coup, tu te dis, les mecs qui jouent les soldats, on leur a dit, dégoyez la caméra qui passe à côté de vous mettez à courir. Et le gars, il se mange tous les gars. Et tu sais même pas si c'est si prévu que ça, parce que tu te dis, le gars, il se bouffe les gars, il tombe, il se relève, il retombe. Et c'est tellement bien gaulé. Tu te dis, ouais, l'espèce de panique totale de ce moment-là avec les gars qui se disent, mais qu'est-ce que ce mec fout là? Il est en train de nous faire tomber les uns après les autres en courant juste parce qu'il a une mission et qu'il est convaincu. Et il nous bloque notre assaut, quoi.
Et c'est ça. Et d'ailleurs, la scène est tournée, c'est depuis une Jeep. C'est pas un rail, c'est depuis une Jeep. Voilà. Et oui, évidemment, il se prend des figurants et on a dû lui dire non, mais tu cours. Tu quoi qu'il se passe, tu cours, quoi. Tu cherches pas à comprendre.
C'est beau parce que tu vois les coupes, mais elles sont hyper subtiles. Ça me fait penser à Birdman. Le côté, il y a les coupes assez flagrantes. Bah, genre justement, hop, tiens, il se prend un coup, il va être inanimé pendant quelques heures. Bah là, forcément, tu mets une coupe, tu mets le moment de l'inconscience, comme dans Birdman, comme oh tiens, ça passait une porte. Allez, hop, on met une coupe, tu vois. Mais par contre, il a l'intelligence de faire comme Iñárritu, c'est-à-dire que quand il fait une coupe de plan, il fait pas de coupe sonore. Et vice versa, les coupes sonores, il va les faire à d'autres moments. Donc du coup, tu as toujours l'impression de continuer parce que le son, lui, ne coupe pas. Donc du coup, c'est cette espèce d'intelligence d'avoir l'impression, voilà, qu'en effet, c'est constamment continu. Et heureusement, c'est pas que ça.
Ben, c'est pas que ça. Moi, ce qui m'a frappé, énormément de choses, mais il y a un travail sur la mise en scène, on l'a dit, mais également sur le décor. Un décor qui est foisonnant d'histoires, de détails. L'histoire passe, la narration passe par le décor. D'habitude, bon, on ne fait pas gaffe. Hein, et là, la caméra fait un petit décalé, mais l'air de rien, ben, tu jettes ton œil sur le décor et en fait, il se passe quelque chose. Il y a des mecs qui sont en train de dormir sur le bord de la tranchée. Il y a une affiche, il y a un rat qui passe, il y a un cadavre sur un barbelé. Chaque fois, il y a un petit détail, il y a un petit panneau en allemand. Le décor regorge d'histoires, de vie, en fait. Et la narration passe par là. C'est un extrait, Bon, c'est pas un documentaire évidemment, mais on a l'ambiance finalement de cette guerre des tranchées qui passe par le décor, qui est appuyée par la narration. Et c'est là qu'on voit d'autant plus que tout a été réfléchi en amont parce qu'ils ont creusé des tranchées. Il y avait 5800 pieds, je crois, donc ça doit faire 1800 mètres à peu près de tranchées creusées, rien que pour ça, plus les autres décors et autres. Il y a un travail de dingue. et puis c'est calculé. Quand tu vois que la caméra se pose exactement et met tout en relief et que c'est un travail titanesque et de malade quoi.
Mais c'est vrai que ça c'est dingue. Déjà oui, c'est clair que ça pue pas le vieux studio bien naze et ça aurait pu être la facilité, mais tu peux pas avoir un rendu comme ça.
À une époque où tout est en fond vert, c'est juste dingue quoi. Ouais.
Ah c'est clair, bah, tant mieux. Bah, voilà, une preuve de plus, une preuve qu'avec des vrais décors et du vrai sentiment et de l'organique, on arrive à quelque chose. Et c'est vrai que ce passage-là, comme tu le dis, quand tu dis, tu vois, quand c'est surtout le passage où ils arrivent dans la tranche allemande où tu vois les panneaux, les affiches, et c'est bien de le montrer ça parce que les Allemands, ils sont très peu représentés. On va avoir 2-3 soldats vraiment en face cam. Le reste du temps, c'est des ombres qui tirent. Et c'est vrai que quand on les voit, c'est pas glorieux. On les met jamais en avant. Il y a un passage où quelqu'un pourrait avoir un trait de noblesse, bah il l'a pas. Pourquoi pas, en même temps, d'un autre côté, c'est la guerre, les mecs sont là pour leur survie, sont là aussi pour mener à bien leur mission. Je veux dire, il n'y a pas de moment où on te dit, c'est des gros cons sanguinaires, c'est juste des mecs qui sont sous le même couvert de mission que les autres gars. Et ce qui est fou, c'est justement moi, ce passage où ils arrivent dans la tranchée allemande, vu qu'on a vu énormément à la première tranchée, puisqu'ils la traversent de fond en large avant de partir dans le No Man's Land, ils arrivent là et on nous montre comment les Allemands construisent leur tranchée. Donc du coup, on ne te montre pas juste des mecs qui marchent dans un couloir, on va s'attarder sur les détails et sur eux qui s'extasient devant le. Tu sais, ils ont construit des lits, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On te montre que c'est deux manières différentes d'avoir vécu la guerre entre des mecs qui étaient préparés à rester bien plus longtemps que ça qu'eux, alors qu'eux allaient faire des assauts continus pour finir plus vite. Et on voit que c'est pas la même mentalité non plus, et ça on le voit sans avoir besoin d'aller dans l'alignement et de voir les Allemands qui parlent entre eux quoi. C'est fou d'avoir eu ça.
Et alors je vérifie vite fait dans mes notes, oui les décors sont nommés aux Oscars aussi, tu m'étonnes. Ah. Tu m'étonnes. Bon, y a une dizaine de nominations, donc oui, y a le mixage son et le montage son aussi, qui sont dans le... plus la musique.
Bien foutu. La musique est très, elle est très irruptive. En fait, elle est constante, mais elle a ces moments justement où elle va réussir à appuyer énormément la narration sans trop la submerger. C'est super malin. Mais pour en revenir à l'image, il faut quand même qu'on le cite. Hein. Il y a Roger Deakins à l'image, quoi. Et ça, tu le sens à tous les plans, tu vois. T'as le maestro, quoi. Le maestro est là. Et tu sens que c'est le chef d'orchestre aussi de tout le visuel. Et avec Sam Mendes, putain, qu'est-ce que ça colle, quoi.
J'allais les citer, ils sont aussi nommés à la photographie.
Donc ouais, Roger Deakins qui avait déjà fait Skyfall et Jared avec Mendes, donc du coup c'est un duo qui fonctionne très bien. Je sais qu'il est nommé aussi, hein, s'il peut gagner une seconde statuette parce que le nombre de fois où on aurait dû lui enfiler. Une fois de plus, je m'en prends les Oscars, mais quand c'est Deakins, j'aime bien. Voilà.
Donc on peut le dire, Sam Mendes a sorti l'artillerie lourde, ouais, pour les Oscars.
Ouais, mais l'artillerie lourde au profit d'un bon film. Pas juste le regarde comme je coche les cases, quoi. Il y a aussi, il a pensé à son grand-père, il a fait ça aussi pour de très nobles raisons, quoi.
Alors, il a pensé à son grand-père, c'est... Alors, il a écrit aussi le scénario, c'est son premier film où il écrit le scénario où il participe, et c'est d'après les histoires que racontait son grand-père et d'après un bouquin qu'a écrit son grand-père, qui a fait la guerre justement, qui a été dans les tranchées. Oui, c'est un film d'autant plus personnel. Paris réussi, quoi. L'émotion, je tremble encore, là. Je suis encore un peu tremblant, et pas seulement parce qu'il fait froid. D'ailleurs, là, on est dans le parc au-dessus des Halles, on voit passer des rats, on a l'impression encore d'être dans le film, toujours.
Ah, le passage avec le rat, là, dans le bunker, putain, c'est...
Même leurs rats sont plus gros.
C'est ça.
1917, la première sensation forte, le premier gros blockbuster de qualité de cette année. J'espère que 2020 sera comme ça, parce que ça met la barre très haut d'entrée.
C'est clair, ça c'est au moins c'est le genre de truc où quand on pensera, tu vois, au film de l'année, on oublie généralement ceux des premiers mois. Je pense que celui-là, on l'oubliera pas.
Caporal Thierry.
Commandant Bourdon.
Je viens de recevoir un ordre de mission. Nous devons aller voir le prochain film.
What are you so happy about?
I did something unexpected today.
Why would you do something like this? I mean, what the fuck is wrong with you?
This is the kind of thing that you're supposed to tell somebody about before you get married. You should have told me about this.
I can't help it.
Si vous aviez encore faim après 1917 et les soldats qui passent par-dessus leurs camarades décédés...
Oh, mais tu commences par ce passage-là.
Ben oui, hein. Hein, le passage dans la rivière, notamment.
Ah, tiens, des cadavres bloqués à un barrage et je dois passer par-dessus pour aller sur la rive. Glamour.
Voilà. Eh bien, on passe à un film qui va définitivement vous couper l'appétit. C'est garanti sur facture, n'est-ce pas, Hera, qui nous a rejoint. Salut, Hera.
Salut, Thomas.
On est allé voir Swallow de Carlo Mirabella Davis, d'après un scénario de lui-même, avec Halle Bennett dans le rôle de Hunter qui est une femme au foyer. jeune mariée c'est la femme parfaite, elle fait à manger pour son mari Winner, le plus jeune directeur de la société et futur CEO, hein, le bon fils à papa qu'on aime bien, mais le Winner, et qui est dans la performance, l'exigence. Et le jour où Hunter est enceinte, elle développe un trouble curieux. Elle se met à avaler des objets non comestibles, des billes, des punaises, des piles, de la terre. Évidemment, ça ne plaît pas dans cette famille proprette.
Ça dérange beaucoup. C'est un film assez intéressant. Déjà, je voudrais lancer un gros trigger warning pour la totalité du film si vous êtes sensible à ce que vous voyez à l'écran. Parce que c'est vraiment trigger sur trigger. On prend... Si vous arrivez à vraiment ressentir ce que vous pouvez voir à l'écran parfois, dès qu'elle prend un objet, qu'elle le met dans sa bouche, ou dès qu'elle est en train d'avaler quelque chose, c'est juste horrible à ressentir à l'intérieur de soi. Ah, mais ça doit être atroce en fait d'avaler une punaise. Oui, effectivement, ça doit être atroce. Et c'est hyper. C'est un film déjà qui est hyper violent là-dessus, au niveau de ce que ça peut nous transmettre en termes de sensations. Il y a un gros travail qui est fait sur le son, il y a un gros travail qui est fait sur l'image, il y a des gros plans sur les détails, des plats, des objets, des textures, et le son accompagne ça, donc ça rend le film extrêmement sensitif.
Ah oui, du sens, et oui, notamment, tout est déjà dans le titre, Swallow, on va être porté beaucoup sur le buccal, sur le manger. On commence déjà par manger des trucs comestibles au début, et on s'appuie énormément là-dessus, et ensuite, on va aller sur ces objets-là. C'est d'après une expérience personnelle, encore quelqu'un qui a écrit par rapport à sa grand-mère. Alors c'était le grand-père dans le film précédent, là c'est par rapport à la grand-mère du réal et scénariste qui avait développé donc la maladie de Pica, qui est une manifestation du stress, et fait que c'est un TOC quoi, et ça, c'est une maladie qui développe des TOC chez la personne, et ici donc ça peut se matérialiser notamment par ça. C'était une femme, pareil, femme au foyer qui était engoncée, enfermée dans ce foyer. On a une grosse dénonciation du patriarcat, un peu lourde quand même, n'est-ce pas?
Ouais, peut-être. Elle est très très appuyée. En fait, c'est vrai qu'au début, j'avais pas capté que c'était là-dessus, que ça pouvait parler de ça, mais effectivement, au fur et à mesure que le film s'écarte du trouble en lui-même, on comprend que c'est plus une critique de l'environnement dans lequel elle est. Hunter, c'est une femme qui n'a pas vraiment été aimée quand elle était plus jeune, qui connaît pas vraiment ce que c'est qu'être nourrie et qu'être appréciée et entourée par les personnes avec qui elle vit. Donc, elle est toute seule dans cette grande baraque. Hyper stylée, hyper belle, qu'elle s'amuse à décorer, elle fait un peu de ménage, elle fait un peu à manger. Quand son mari rentre, elle est heureuse de pouvoir le retrouver, d'avoir enfin un peu de contact humain, et puis non, bah lui, il est centré sur son téléphone et sur son boulot. Donc, on nous montre tout le long que lui, il est branché succès, qu'il appartient à une famille très bourgeoise, qui est branchée succès aussi, chef d'entreprise, donc bon, la vie de famille... au final, rien à faire. Donc, il est très heureux de voir que sa femme donc, tombe enceinte hein, très rapidement. Mais en même temps, bah, peu importe, parce que c'est juste l'idée d'avoir un enfant qui est plus cool que le fait d'avoir un enfant. Et il a beau lui dire qu'il l'aime tout le long du film, c'est des mots jetés en l'air dont on ne sent pas du tout l'essence. C'est un film qui est extrêmement métallique là-dessus, au niveau émotionnel, il n'y a quasiment rien qui est décrit. On voit du stress, on va voir de la fausse joie, on va voir un peu de l'hypocrisie, mais en fait c'est extrêmement... c'est un peu comme des poupées de porcelaine ou des robots, hein. Il y a un côté robotique.
Ah ben cette famille, c'est ça, c'est l'image du succès, mais I want success, I want result. Ils vont voir le psy, donc c'est le père qui paye le psy. C'est le père du mari, donc pour te dire, en fait, le patriarcat est là, c'est-à-dire que le père et les beaux-parents sont toujours présents et ils payent pour ça et ils veulent des résultats. Et bon, alors qu'on veuille des résultats, quand on parle à des vendeurs, je veux bien, quand on parle à une psy, c'est relatif quand même.
On n'a qu'une obligation de moyens quand on est psy, hein, voilà, hein, c'est pas de résultat.
Voilà, puis l'éthique, on s'en fout, hein, parce que le mari qui demande à dévoiler les trucs, il y a un contrôle, il y a une mainmise de la famille sur cette pauvre héroïne. Bon, déjà, le mec, il a une Porsche jaune, donc déjà, je le condamnais d'entrée. Ce mec-là, c'est pas possible, voilà.
Mais ce qui est assez dingue, c'est que c'est une pression qui est établie, mais avec une telle discrétion, ça va être en fait, tu sens tellement que c'est la nature de cette famille d'être comme ça, d'être pressurisante naturellement et de vouloir tout contrôler naturellement, que limite, enfin, évidemment que c'est abusif, mais limite, ça te fait passer la situation pour un truc qui est OK. Et c'est au bout d'un moment, en fait, donc en parlant de son trouble, Hunter le dit elle-même, ça me donne la sensation d'être en contrôle de quelque chose. Parce qu'en même temps, elle est tellement contrôlée par ce qu'il y a à l'extérieur, elle a tellement la sensation de ne pas avoir de prise sur sa vie et d'être en train d'attendre, en fait, que des éléments extérieurs, qu'elle essaie de retrouver le contrôle sur quelque chose et ça passe par ce qu'elle peut consommer.
Je me tourne vers quelqu'un qui avait vu ce film à Deauville l'an dernier, Thierry.
Ouais, et finalement, c'est un souvenir assez frais. Ça fait partie de ceux dont je me rappelle bien. Bon, peut-être parce qu'on s'est remis dedans dernièrement, on a traduit une interview de Carlo Mirabella Davis, puisqu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Ça a aidé, je pense, du fait de me replonger en relisant aussi ses mots et sa relation particulière avec cette maladie, avec cette façon de voir les choses, avec cette façon de voir les femmes aussi, et les femmes dans l'industrie, qui jouent beaucoup là-dessus. Il y a le côté autocentré du mari, en fait. Moi, ça m'étonne pas qu'il y ait cette espèce de relation-là, parce que lui, il part du principe qu'il a réussi, il a passé une journée fantastique en devenant un cador. Donc quand il rentre, sa maison est propre, il y a à manger, donc dans sa tête, sa femme a réussi aussi ce qu'elle avait entrepris, donc il n'a pas à s'intéresser à elle, puisqu'elle a dû avoir une journée bien remplie, puisque quand j'arrive, tout est fait. Sauf qu'au final, il ne se rend pas compte qu'en réalité, oui, au fur et à mesure, ça se délite. Et puis surtout, cette pauvre nana, une fois qu'elle a fait ses tâches, entre grands guillemets, de femme au foyer, elle est toute seule avec elle-même, quoi. Et donc à partir de là, c'est là que quand tu es tout seul avec toi-même, tu commences à réfléchir. Donc ton passé remonte, tout ressurgit. Je pense que c'est une nana qui a dû être dans un concours, on lui demandait de faire plein de choses au fur et à mesure, donc du coup, elle n'avait pas le temps de se recentrer et de penser à elle, et l'arrivée de l'enfant, donc du coup du repos, donc t'es plus centré avec toi, et là il y a tout qui remonte, quoi. Et c'est cette façon là justement, ça s'exprime par la maladie, ça s'exprime aussi par le traumatisme qu'on voit ressurgir peu à peu, qu'elle va tenter de régler. Et je trouve ça assez fin et assez subtil, en fait. Ça a peut-être des gros sabots, mais vu qu'on a vu de son point de vue totalement à elle, c'est normal qu'on ressente aussi son enfermement, donc c'est peut-être pour ça que ça a un côté un peu lourd, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, et au contraire je trouvais ça assez maîtrisé et très très beau aussi à regarder.
Un film danse ? Un film, non, qui danse pas, non.
Oui, je voulais rajouter que c'est vrai que c'est un film qui est super pour plusieurs choses. Déjà, la capacité de travail au niveau de la symbolique. Il y a de la symbolique partout, dans les prénoms, dans les objets, dans plein de choses. Il y a, elle avale un cadenas à un moment, on le voit très discrètement, mais c'est plein de trucs, en fait, on peut trouver des symboliques partout. Donc là-dessus, c'est hyper bien foutu. Et comme vient de le dire Thierry, effectivement, c'est beau, c'est très, très esthétique. Et il y a une capacité de développement et d'analyse au niveau psychosocial qui est complètement folle. On n'a pas le temps dans le podcast, mais si je me laisse parler, je peux discuter de tout ça pendant 2 heures. Donc là-dessus, c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est très, très, très riche, bien qu'on développe qu'un seul sujet. Donc là-dessus, c'est plutôt vraiment bien foutu. Ouais.
C'est un seul sujet, mais qui aborde énormément de choses et qui aborde presque trop de trucs à la fois, parce que il y a ce qui déclenche sa pathologie, il y a ce qu'il y avait en amont, bien avant, il y a son histoire personnelle, avant, après et pendant, il y a beaucoup de choses sur ce personnage là c'est vrai que c'est malgré tout maîtrisé, même si tout n'est pas forcément creusé assez, même si on se demande s'il n'y en a pas un peu trop dans le scénario parfois, il y a déjà beaucoup de choses à analyser, comme tu le dis, malgré l'esthétique très travaillée pour les festivals.
Ouais, c'est vraiment taillé Deauville, c'est taillé festoche, c'est taillé film indépendant, et même au final, même au niveau du scénario, hein, c'est engagé, il y a un message, c'est aussi vachement taillé, mais pour autant, ça reste indé, donc on n'enfonce pas non plus trop de portes ouvertes. Et puis il y a un sujet intéressant qui parle un peu d'un trouble, d'une compulsion, donc c'est pareil, ça vient intéresser, donc ouais, c'est très, très, très taillé festoche.
Bon, on a eu quelque chose de très lourd pour digérer, on va prendre sur quelque chose de plus léger. Maintenant, la séance, les pubs ont commencé, et moi j'aime pas rater les pubs, vous le savez.
Moi non plus.
Voilà, c'est comme les pubs pour le dentifrice dans Swallow.
Ma tentative de lancer l'enregistrement toujours au dernier moment pour rater les pubs a donc échoué.
C'est ça.
Tu te feras avoir par l'industrie du marketing, Thierry, comme tout le monde.
Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie.
Mais j'ai pas de problème, moi.
Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 euros.
Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs.
Et je le fais pour une comédie française sur deux.
Je ferai qu'au début. Les gens finiront par s'intéresser à nous.
Alors aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire, parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse.
Putain, mais merde! Vous voyez pas qu'il y a une caméra, là?
Tout le monde s'en branle de nous.
Merde, merde, merde!
C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues, là.
Allez, on enchaîne sur quelque chose de plus léger, si on veut. Mais le fond est très lourd, comme dit Thierry.
Le fond est très très lourd.
Selfie, un film à sketch de plusieurs réalisateurs, Tristan Hourouet, Thomas Bideguin, Marc Fitoussi, Cyril Gelba, Vianney Le Basque et une belle équipe d'acteurs. un beau mur d'acteurs. Blanche Gardin, Elsa Zilberstein, Max Boublil, Manu Payet, Sébastien Chassagne, Max Sensual, Fanny Ciné et plein d'autres. On va pas tous les donner. Série de sketchs autour des écrans et d'Internet. Finalement, c'est une sorte de Black Mirror à la française. Version comédie quand même,
calme
tout
toi,
de même.
Thomas. Calme-toi Thomas, du calme.
L'intention, c'est clairement ça. Après, on n'est pas en train de parler de l'exécution là, Hera.
Les avis sont partagés. Moi, je suis plutôt enjoué, je mets un smile. Hera, elle met plutôt un pouce rouge.
J'ai cru mourir.
Une série de sketchs, donc celui qu'on voit dans les promos, c'est surtout celui de Blanche Gardin, où elle fait un vlog avec sa famille et elle est obsédée par son vlog. Elle met sa famille en scène pour faire des vues et elle profite de son enfant malade. Et le jour où il guérit, ben, les audiences chutent, elle est dépitée.
Au début, j'avais cru qu'en fait, ils allaient partir sur le principe qu'ils avaient feinté la maladie de leur gamin pour justement créer un enfant malade et donc faire de l'apitoiement. Non, non, au final, c'est encore pire que ça, quoi. C'est on t'annonce que ton gosse a le cancer et ils disent, tiens, est-ce que je peux me faire de la thune sur son dos, quoi. C'est chaud. Et j'avais peur, moi, que ça tourne uniquement autour de ça. Je me disais, comment est-ce qu'ils vont tenir une heure et demie là-dessus, sachant qu'au début, on te montre des passages très courts. Et au final, non, c'est un sketch. Celui-là, c'est l'un des seuls sketchs qui n'est pas développé jusqu'au bout dès le début et qui revient à répétition. Et c'est assez intéressant. Tout n'est pas très égal. Mais y a des fois ça va à la fois suffisamment loin pour montrer les dérives de ça et ça va aussi trop loin dans ce que ça veut montrer. Tout n'est pas égal. Mais les sketchs sont pas tous égaux. Ça me fait penser un petit peu au traitement de tous les films à sketch sont comme ça. Il y en a jamais un qui est égal. Hein. Je pense aux Infidèles, voilà. Où des fois t'as des côtés très brillants où tu as des bonnes mises en scène, bah, genre les trucs réalisés par Azanavicius, quoi. Et de temps en temps, bah, t'as des trucs un petit peu plus moyens où tu comprends ce qu'ils veulent dire, mais l'exécution est pas terrible. Là au moins, voilà, c'est pas toujours très bien dans l'exécution. Par contre, dans le fond, je suis toujours assez ravi de ce que j'ai vu. Ça, c'est très dans la dénonciation, hein, mais c'est une dénonciation qui est très juste et qui, moi, m'exaspère beaucoup. Moi, les gens ultra connectés, je peux plus. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je croise ça constamment dans mon corps de métier. Ça me dérange énormément. Et du coup, de voir quelqu'un qui tape, bon, c'est peut-être facile, c'est peut-être gratuit, mais qui tape dessus bien méchamment et qui montre les dérives de ça, ça m'a bien ravi.
Hera ?
Bah moi, ça m'a pas ravi du tout. Hein, voilà. Je soutiens Thierry dans ce qu'il dit, dans la manière dont le film est fait, effectivement. Comme tu le dis aussi, il n'y a pas tous les sketchs qui marchent. J'ai trouvé que majoritairement, ça ne marchait pas. Que c'était vraiment pas marrant du tout. Parce que ça enfonçait des portes ouvertes. Et qu'en fait, moi, quand tu me présentes un constat, bah, je veux que tu m'apportes une solution. Et je ne veux pas juste que tu constates quelque chose, parce que j'ouvre Facebook, je vois exactement la même chose que ce que je vois sur cet écran pendant 2 heures. J'ouvre Instagram, je vois exactement la même chose. Je vois que des gens qui s'exhibent, je vois des gens qui s'exhibent dans la rue, je vois des Instagrammeuses en train de se prendre en photo devant des trucs avec des photos qu'elles vont retoucher pendant une demi-heure après. Je vois des gens qui font des vlogs, je vois des gens qui essayent de percer dans le digital en permanence. Donc je le vois déjà dans ma vie réelle. Donc si tu veux me faire une dénonciation de ça à l'écran, bah déjà tu m'apportes strictement rien, parce que c'est que des trucs que j'ai déjà vus, donc... Je retiens strictement rien de ce film, ça m'apporte rien, ça ne m'apprend rien, ça me fait pas marrer parce qu'en fait c'est pas drôle, enfin, la manière dont c'est usé avec cynisme personnellement me fait pas rire parce qu'en fait c'est limite un peu tragique, enfin, moi on montre une société malade, bah oui, donne-moi des solutions pour l'aider parce que ça me fait un peu de la peine de l'avoir comme ça, et là on montre juste à quel point, oh regarde comme ils sont ridicules et limite on est un peu dans le jugement par rapport à eux, donc on apporte un regard un peu jugeant dessus, disant oh regard comment est-ce qu'ils fonctionnent par rapport à leur téléphone et par rapport à leur vie. Bah très bien, mais si t'apportes rien derrière et que tu te contentes de juger, ça m'intéresse pas du tout.
Je suis pas complètement d'accord avec ça, alors, parce que déjà tous les films n'apportent pas des solutions, et que même une comédie c'est pas forcément son rôle d'apporter une solution, surtout pour déjà le mettre le point là-dessus, c'est déjà pas mal. Bon là on a des youtubeurs là cette fois-ci, quelque chose me dit que le film aurait des vidéastes. C'est pas forcément sur YouTube, on a des vidéastes. Quelque chose me dit que dans quelques années, on aurait eu des podcasteurs. Petit miroir là dans ma gueule. Non, mais moi je suis pas complètement d'accord. Et d'ailleurs, cette société est très noire, mais j'ai pas l'impression que les personnages soient tristes de cette société. Ils en sont assez contents finalement. Et le message est pas noir, il est pas pessimiste comme un Black Mirror. On est sur une comédie, on est sur des personnages qui sont finalement assez heureux. Et quelque chose, et un message global dans l'ensemble qui nous dit que finalement c'est pas si mal. Alors, mis à part peut-être celui sur le vlog qui finit assez mal et qui est vraiment très cynique, celui-là pour le coup, c'est vraiment le plus. Parce que enfin, la chute, on va pas la révéler, mais elle est sale, hein. Elle est assez sale. Mais le truc de Manu Payet qui se laisse sa vie guider par un algorithme de magasin en ligne, ou même celui du SmileX, où il y a un épisode où toutes les données sont révélées. Ben, finalement, les gens sont pas malheureux de ce système et ils s'en accommodent. ça permet de relativiser aussi un peu. On n'est pas dans ces extrêmes-là, mais c'est pas, ça nous dit aussi que c'est pas si grave que ça.
Ah, je suis pas d'accord pour le coup. Autant sur le sketch avec Manu Payet justement qui se fait guider par un algorithme, moi je l'ai trouvé encore plus pessimiste parce que c'est le côté arrête d'essayer d'avoir du choix, reste un mouton, ton libre arbitre il vaut plus rien parce que maintenant on est là pour toi. Et voilà, moi qui suis quelqu'un qui est très envie d'avoir du libre arbitre, ça me dérange.
C'est un message pro internet quoi. Oui.
Voilà, mais c'est très dérangeant. Après ouais non, moi, je trouve ça très pessimiste et très misanthrope parce que je me disais justement le fait de pas apporter de solution, c'est on demande des gens qui sont foutus, de toute façon la société sera comme ça, ferme ta gueule, t'as pas le choix, même si jamais tu te battais, si jamais demain les 10 000 personnes qui verront ce film ils seront plus nombreux que ça j'imagine, arrête définitivement internet, de toute manière quoi qu'il arrive les lobbies feront en sorte que c'est foutu, le truc est foutu. Après je pense que t'es obligé de prendre position de toute façon quand tu vois ce genre de film par rapport à ce que tu vois. En fait je pense que la cible est peut-être différente. Toi t'es pas une personne qui te met énormément en scène sur les réseaux, ou alors un minimum avec la chaîne, avec les trucs, on met des photos d'une peluche, ça va, on n'est pas tous les jours en train de dire regardez mon déjeuner, regardez mes chaussures, et d'avoir 1000 personnes qui elles passent par hasard, donc elles foutent un like et puis elles passent à autre chose, et donc du coup toi t'es persuadé d'avoir des gens qui t'admirent. Et des gens comme ça, il y en a plein. Les gens qui font ça, j'en connais. Vous n'êtes personne, malheureusement. Je suis désolé pour vous. Hein. Le jour où vous aurez un problème, ces gens-là ne seront pas là pour vous. Ils s'en foutent de vous. Et c'est ce que. En fait, moi, ce film-là, je me dis, pour des gens qui se mettent énormément en scène comme ça, qui voient ça, ils vont se dire ah putain, c'est à ça que je ressemble. Je suis pathétique. Et moi, je me dis que c'est peut-être un peu ça le message aussi, c'est de réaliser, quoi. Et t'as le truc avec Silberstein qui est hyper intéressant, qui parle justement de cette espèce de paranoïa d'une nana qui commence à s'engager dans un truc, mais elle imagine toutes les dérives que ça pourrait avoir si tout le monde le savait via les réseaux, via tout ça, puisque tout le monde est surconnecté et tout le monde la juge, et du coup, elle refuse de vivre. Il y a aussi ce côté-là, mais il y a ce côté, ouais, justement, regardez à quoi vous ressemblez, enfin, ces espèces de parents qui font la course à la vue. Tout le monde est comme ça, hein. Peut-être pas dans la moindre mesure, hein, mais des gens qui vont aller faire de la putaclic, faire de la saloperie pour pouvoir avoir plus de monde, quitte à des fois à vendre un petit peu leur pseudo-intégrité qui se prétendent hein, parce qu'ils n'en ont pas. Ça ressemble à ça. Et je me dis peut-être qu'il y a un côté, tu peux te dire « Ah putain, ouais, faut peut-être que je me calme. » Voilà, ou que je l'utilise consciemment et intelligemment.
Ah, mais le truc dégueulasse, genre le gamin est soigné, il y a une pub pour un restaurant incrusté dans la vidéo, c'est affreux. Non mais ces gens-là, ils existent, les gens qui font des déballages de cadeaux avec les gamins, ce genre de trucs, c'est vraiment affreux.
Eux n'iront pas voir le film, et c'est ça le souci. Si eux allaient voir le film, peut-être qu'ils trouveraient ça très marrant, on a fait pareil, et peut-être qu'ils se diraient, j'avoue, c'est un peu creepy.
Les infidèles n'ont pas arrêté l'infidélité, c'est pas le but.
Mais... Pour moi, c'est ce que je disais ça à Thierry juste avant qu'on enregistre, pour moi, quand tu fais une comédie française, que tu sais que tu vas avoir une grande visibilité, que des gens vont venir te voir parce que tu mets les bons acteurs pour ça, que tu fais du bon marketing autour de ça, tu as une responsabilité par rapport au message que tu transmets. Et si t'es pas là pour essayer justement les gens, d'aider les gens à être un peu plus conscients, c'est juste là pour leur faire dire, regarde, comme tu disais Thierry, regarde à quel point t'es pathétique. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure prise de conscience. C'est un film qui m'aurait beaucoup moins dérangé s'il y avait eu un personnage ou deux. Bah il y en a un, mais super, il est montré à la fin pendant 2 secondes. Et en plus, on le lamine parce que le mec n'utilise pas les réseaux. Sa femme lui dit bah ouais, en gros t'es chiant. T'as rien fait, t'as rien à déclarer. Il s'est rien passé dans ta vie de spéciale. T'es quelqu'un d'honnête, droit et intègre. Bah t'es ennuyeux. Bah ouais. Enfin peut-être pas en fait. Est-ce que ce mec vaut pas peut-être un peu mieux? Tu vois? Enfin
c'est joué par l'acteur qui joue tout le temps les mecs chiants dans tous les films. En plus là, il fait des citations tout le temps qui sont un peu lourdes pour tout le monde à la longue.
Et là, c'est clairement au décrédit du film. Je suis quasiment persuadé qu'ils ont écrit cette scène juste parce que ça les faisait marrer de faire bitcher Dominique Lavanant. Hein.
Bon, en tout cas, ce que je voulais dire à travers ça, c'est qu'encore, j'aurais trouvé ça beaucoup plus équilibré si t'avais eu au moins un personnage ou deux, ou des personnages qui venaient contrebalancer ce milieu-là en justement montrant ce que c'est qu'une utilisation consciente des réseaux. Parce que le seul truc qu'on te montre, c'est la prof qui est ultra littéraire. Donc, ultra littéraire, snob, grammar nazi. Et qui supporte pas du coup l'internet et qui sait pas comment s'en servir. Donc on te montre qu'en gros elle sait pas s'en servir, mais on te montre pas un seul personnage qui a une utilisation consciente des réseaux et qui sait ne pas être pathétique. Et c'est du coup ça rend c'est de l'abrutissement en fait pour moi.
Alors la prof et le mec qui fait des citations, c'est pas le même personnage. Voilà, non je le dis. Par contre oui, alors moi je voulais donner un bon point, c'est quand même un film qui m'a rendu Elsa Zilberstein et Max Boublil l'attachant. Et c'est balèze parce que franchement
ouais, va voir Play. Vraiment, ça change énormément de Boublil. Parce que là, Boublil, à la limite, moi j'aime bien le mec en général, mais il ressemble à Boublil hein, dans ce rôle-là. Enfin, sauf dans les passages où il se livre un peu plus. Mais bon, on le voit pas assez. Mais va voir Play.
Silberstein, elle est plus ou moins foutue. Hein.
Oui, bon, après, c'est une caricature de prof française. Il y a limite, s'il n'y a pas de la poussière dessus, oui, voilà. C'est...
Enfin, elle ressemble toujours plus ou moins à ça. Hein.
Ouh là là. Selfie, film à sketch. Bon, inégal. Mais bon, moi, rien que pouvoir manipuler avec une canne à pêche, pourquoi pas.
Belle image.
Plutôt qu'une perche à selfie.
N'y allez pas, c'est honteux.
Après, il y a d'autres films. Enfin, franchement, c'est assez varié cette semaine, ça va.
Ouais, mais bon, c'est... Je sais pas, gardez votre humanité.
Vous pouvez voir La Belle Équipe avec Cadmerade, si vous voulez.
C'est sûr, ça va être beaucoup mieux, ouais.
Non, c'est le mec qui a fait la vache, ça peut forcément être bien.
Eh bien, voilà une belle sélection de cinéma. Toutes les semaines ne sont pas aussi bonnes en ce qui me concerne. Moi, je suis assez content des trois choix de films pour l'instant. Est-ce que, chers amis, il y a des films que vous avez rattrapés ou vus à côté cette semaine?
J'ai vu L'Adieu, que tu avais vu, toi, un petit peu avant moi. Et du coup, on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Donc, je l'ai vu genre le lendemain du jour où on a enregistré. C'était plutôt cool.
L'Adieu de Lulu Wang, effectivement, avec Awkwafina, qui a eu un Golden Globe pour sa prestation pour ce film. C'est en gros, c'est une famille chinoise qui se réunit pour aller voir la grand-mère malade, la matriarche. Et donc, c'est une famille qui est dispersée. Il y a une partie qui est au Japon, il y a une partie qui est en Amérique. D'ailleurs, Awkwafina est la jeune femme, la fille, finalement la petite fille qui est américaine, qui a grandi là-bas. Et donc, c'est en retour en Chine, on s'aperçoit qu'on est déraciné. Et bon, bref. Donc, on rejoint la grand-mère parce qu'elle est malade, elle a un cancer des poumons. Mais on lui dit pas qu'elle a un cancer, et donc le prétexte pour se réunir, c'est pas le cancer, c'est un faux mariage du cousin installé au Japon, donc qui vient en Chine pour faire un faux mariage.
C'est quelque chose de très répandu visiblement donc en Chine, de ne pas dévoiler l'état de santé des personnes qui sont en fin de vie pour justement les préserver le plus possible. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans leur culture, mais qui n'est pas ancré dans la culture justement des enfants qui, eux, font partie des familles d'expatriés. Le personnage donc d'Awkwafina, Billy, elle est arrivée aux États-Unis quand elle était très jeune, donc elle est très ancrée aussi dans la culture américaine. Et là-bas, bah, t'as quelqu'un de malade, tu lui dis. Parce qu'il y a des choses à finir, il y a des dernières choses à accomplir, tout ce qu'elle n'a pas pu faire, voilà, peut-être des choses à régler. Et du coup, elle va se retrouver dans une famille qui, clairement, est sous le joug du silence, tu dois rien dire. Elle, c'est une passoire à émotions et elle doit rien montrer.
Et d'ailleurs, la famille ne veut pas qu'elle vienne parce qu'on voit trop, on lit trop en elle.
Ouais, et puis elle se ramène un peu comme ça. Et du coup, c'est un petit peu, ça joue vachement là-dessus. Ça te montre aussi toute la pression sociale parce qu'elle, c'est justement celle pour qui ses parents ont tout sacrifié pour aller aux États-Unis pour qu'elle puisse avoir une éducation différente et qui est en train de se planter parce qu'elle n'a pas de bol, hein, pour le coup, elle n'a pas sa bourse, il lui manque des trucs. Et ça te montre aussi ça te montre l'espoir qu'on met sur les enfants, le fait d'abandonner ses repères, d'abandonner sa culture. Ça parle de plein de choses.
Oui, et puis il y a aussi une différence culturelle Chine-États-Unis. C'est un peu piquant aussi parce que les deux familles vont s'expatrier au Japon et aux États-Unis qui ne sont pas les super copains des Chinois. Il y a une évolution de la Chine aussi qui va très vite parce que c'est dans le quartier où ils étaient, mais tout a poussé d'un coup. Il y a des immeubles très carrés qui perdent. On a la différence de culture entre justement l'américaine, la jeune fille qui voit ça avec un spectre, avec un filtre américain. Et qui comprend pas vraiment ce qui se passe et elle s'aperçoit que c'est plus vraiment chez elle. Et ici elle est expatriée, ici c'est l'américaine, alors qu'aux États-Unis c'est la chinoise. Enfin, il y a énormément de choses sur ce petit film. C'est une comédie, c'est tourné comédie. Et c'est émouvant, il y a une émotion, c'est sympathique.
Ouais, comédie, moi j'ai pas trouvé ça si comique que ça. C'est vrai que moi j'ai plutôt trouvé que c'était très drame plus que comédie. Alors on dira comédie dramatique, mais c'était très drame parce que ce côté justement, même le passage au mariage où tu as les gens qui sont censés faire un discours, mais vu que Billy a parlé un peu avant et qu'elle était sur le point de craquer, tout le monde commence à craquer peu à peu, donc tu les vois en train de chanter et ils sont tous là en train de pleurer. Non, c'est la joie, t'inquiète pas mamie.
C'est le poids du mensonge sur cette famille, parce que là on parle de ce mensonge là, mais c'est une famille qui se ment à tous les niveaux pour tout et n'importe quoi.
Non, voilà. Et donc du coup, moi j'étais là, putain, oui, le côté comédie, il est vite évincé parce qu'on est dans un drame assez poignant, un drame familial, et c'est vachement bien.
Voilà. Petit détail, Awkwafina, je trouvais qu'elle faisait super bien le vieux dans Jumanji, parce qu'elle se tenait courbée en avant. Et en fait, non, elle se tient comme ça aussi dans le film, donc voilà, c'était juste...
quand même vachement exagéré dans Jumanji, donc non, t'exagères.
Penchée en avant tout le temps, la tête dans les épaules...
Ah bon, c'est une posture, hein, c'est tout.
Oui, c'est une posture, c'est une posture. Écoute. Autre film, moi, film qui m'avait marqué, que j'ai vu, qui était sorti aussi la semaine dernière, Ninaou. On parlait féminisme un peu tout à l'heure avec l'oppression sur les jeunes femmes. Là, c'est Ninaou, c'est un film taïwanais cette fois-ci, de Midi Zid, avec Keixi Wu, qui est aussi la co-scénariste. C'est un film sélectionné à un certain regard à Cannes, enfin 2019. Et c'est l'histoire d'une actrice qui va accepter un rôle pour un long métrage. C'est une actrice qui galère depuis un moment, qui a accepté, qui est allée à la capitale, mais qui vit vraiment assez mal. Elle fait des petits rôles, des petits clips et des petits. Même elle mange sur internet devant des gens, tu sais, les trucs pour les réseaux sociaux, le truc. C'est bien glauque comme il faut. Donc elle va accepter un long métrage dans lequel il y a une scène de nu assez trash. Enfin, assez trash. Bon, ça reste un grand film, mais. Une scène de nu où, avec en plus avec du triolisme. Enfin bon. Et ça va pousser, ça montre le calvaire d'une actrice, tout ce qu'elle doit, j'allais dire avaler. C'est terrible avec tout ce qu'on a dit précédemment et même tout ce que raconte ce film, tout ce qu'elle doit accepter si elle veut atteindre si elle veut bosser dans cette industrie, dans ce milieu et atteindre ce rêve finalement de bosser pour un grand film. On a une femme qui est tourmentée, qui est poursuivi par ça, qui est torturé psychologiquement. Et d'ailleurs, le montage joue beaucoup là-dessus, quitte à perdre le spectateur aussi par moment.
C'est quoi, c'est un biopic sur Béatrice Dalle?
Alors, j'espère pas pour elle.
Non, mais dans le sens où malheureusement, elle s'est fait connaître pour un truc et du coup, on lui demande constamment de faire ça, ça faisait penser à ça.
Ouais, alors en plus, on sent que c'est un film qui est... Je suis obligé d'en parler, parce que le réal en parle aussi et c'est aussi tiré de l'expérience de la scénariste et qui est aussi la scénariste, qui est aussi l'actrice principale. C'est très inspiré de l'affaire Weinstein aussi également. Mais en disant ça, on en raconte déjà beaucoup, alors ça m'ennuie. Voilà, bon bref, c'est aussi dans leur promo.
Ça a l'air cool, donc je m'y intéresserai.
Non, c'est fort, c'est assez... le montage perd un peu, mais c'est voulu. L'héroïne est désorientée aussi par moments, et donc bon, des fois on ne sait pas trop où ça va. C'est peut-être pas toujours très adroit, mais enfin c'est fort quoi. C'est coup de poing. Je vais regarder Scandale qui arrive là bientôt avec ce film en tête.
Ouais, Scandale, il me tarde vu que les premiers retours que j'ai sont plutôt positifs alors que je ne m'attendais pas à du très bon, donc il me tarde de voir ça. Voilà, c'est marrant parce que on a noté ce sur quoi on voulait revenir. Et quand
bon, le dessert là.
Je vois ce qui est écrit derrière alors qu'on vient de parler d'un film à la portée très lourde, t'es là chez. Alors là, on va parler d'un truc excessivement lourd, mais pas pour les mêmes raisons. On a vu le Michael Bay sur Netflix.
C'est une autre forme de violence.
Ce qui fait chier, en fait, c'est que ce soit Netflix qui lui ait dit « Tiens, voilà une malice pleine de thunes et voilà un bac à sable, tu fais absolument ce que tu veux. » Parce que du coup, il fait absolument ce qu'il veut, visuellement, tu t'éclates. Mais putain, sur un écran, ça fait chier, quoi. Moi, j'avais envie de voir ça, j'avais clairement envie de le voir au Cinoche. En me bourrant la gueule bien avant, histoire d'être totalement décérébré devant. Mais qu'est-ce que c'est con, mais c'est fun.
Mais c'est con. Ah, mais moi, j'ai vu ça pendant les fêtes de Noël, effectivement. Oui, c'est un film, c'est super beau, ça pète dans tous les sens, c'est une belle action. Seulement, voilà, oui, il faut un bel écran avec un son de maboule. Il te faut le caisson de basse sous le canapé. Alors, bon, le scénario, faut l'oublier complètement. C'est complètement à la ramasse.
Les mecs, ils ont un bateau aimant, je veux dire. Non, il n'y a pas de scénar. Hein.
C'est génial, un bateau aimant.
C'est génial, mais il n'y a pas de scénar. Quoi.
Mais c'est juste dingue en action. Alors, il y a des faux raccords dans tous les sens. Oui, il faut pas être tatillon.
Pour faire un truc, alors en fait c'est 6 fusils de Tchekhov qui deviennent aussi des Deus Ex Machina qui sont mis dans une mission. Parce que le côté « Ah merde, comment faire pour la technologie ?» Non, en fait, je vous ai pas dit, je suis un génie de la technologie, j'ai absolument tout créé. Et du coup, Non, c'est largement pire quoi, t'as MacGyver dans l'équipe quoi.
C'est un milliardaire inventeur que personne ne connaît.
Ah. qui a créé quasiment tout ce qu'on connaît, hein, parce qu'il le dit, il en parle, il fait « ça c'est moi ». Et le bateau aimant, c'est lui. Hein. Ouais. Un bateau aimant, je veux dire...
Ouais, puis heureux, ils vont cacher, hein.
C'est ça. Et puis c'est quand même une bagnole de sport verte dégueulasse tuning qui ravage Florence. Donc ça fait pleurer quand même.
T'as des passages merveilleux où du genre t'as quand même les gars, tu vois, qui s'arrêtent. Il y a une scène qui a été coupée visiblement. C'est les gars, ils arrivent, ils sont sur une place. Oh, c'est sûrement une place du coup Florence assez connue. Ils font un arrêt parce qu'il y a une femme avec une poussette. La pauvre, il y a le bébé qui vole et ils attendent que le bébé retombe dans la poussette et ils repartent. Alors a priori, dans la scène qu'il a coupée, ils chopaient le bébé, ils le faisaient passer de l'autre côté de la voiture pour le remettre dans la poussette et repartaient. Au ralenti évidemment, parce que c'est Michael Bay qui a des ralentis partout. Mais ils t'en balancent tellement plein dans la gueule que de toute façon tu t'acceptes. Une petite mention pour Dave Franco, les mecs ils ont quand même eu le frère Franco. Et qui se fait empaler par un Manitou. Je veux dire, dès le début du film, c'est génial.
Merci de spoiler qu'on perd un acteur dès le début du film.
C'est le début du film, c'est bon. En tout cas, c'est fun, c'est bourré d'hémoglobine. Qu'est-ce que c'est gore, bordel. Mais voilà, si t'as envie de t'éclater et que tu te dis t'as un rythme qui te lâche pas pendant 2 heures et c'est une scène d'action immense pendant 2 heures, bah celui-là, il est plutôt bien.
Voilà, si vous aimez réfléchir, oubliez. Hein, je dis ça pour Hera qui n'avait absolument pas l'intention de voir ce film, je pense.
Absolument pas.
Voilà. Oui, en plus, alors non, s'il y a un truc qui change, c'est que d'habitude, dans les films, quand il y a un montage dans une ville, et quand il y a une poursuite dans une ville, les bagnoles se téléportent. C'est-à-dire qu'elles sont à l'Arc de Triomphe, puis à la Tour Eiffel, puis sur la place de la Bastille en 30 secondes. Bon, ce qui est de la science-fiction. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, en fait, ils font une méga poursuite. T'as l'impression qu'ils sont super loin. Et en fait, non, ils sont toujours sur. Ils ont fait le tour de la place parce qu'en fait, tu reconnais les bâtiments qui sont à 100 mètres l'un de l'autre.
Il a eu de la thune, mais pas des gros décors.
Tourner une scène de bagnole dans Florence, putain. On finit un peu avec le sourire, ça fait du bien parce que tout n'a pas été très souriant cette fois-ci. C'était Certains les Machos. Merci, Hera.
Merci, Thomas.
Merci, Thierry.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, on est sur les réseaux sociaux. Partagez, abonnez-vous. Twitter, Facebook, Instagram, CLAAC Podcast, CLAAC Podcast. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Je ne vais pas toutes les énoncer, il y en a beaucoup trop, mais vous les connaissez. Si vous avez entendu cet épisode, c'est que vous avez forcément une plateforme de podcast, s'il vous plaît. Et si vous écoutez sur Ocha, y a un petit menu de roulant. Abonnez-vous, vous verrez, il y a une appli qui va vous plaire. À la semaine prochaine pour de nouveaux films. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
À table.
Non mais vous allez parler de Swallow, moi je peux pas dire à table.
J'avais une vanne mais j'ai pas pu du coup. Bah non.
Alors moi j'hésitais à mettre cet épisode en explicite ou pas.
Ça je t'ai dit je veux pas. Tu peux pas faire ça. Vas-y dis-le.
Mais non mais si tu veux pas je dis ça.
Vas-y,
va.
Dis-le quand même, de toute façon on le coupera.
Oui c'est moi qui monte, je coupe.
Bêtisier.
Mais non, mais tu veux pas.
Mais dis-le au moins,
dire
Thomas.
Le truc sur le coke machin, là, métallique.
Mais oui, elle le sait.
Ah, mais j'adore cette vanne.
Elle adore cette vanne. Non, mais là, ça tombe à plat, là, c'est bon, c'est la fin.
C'est moins drôle après.
Et ouais, non, mais c'est ça, il fallait le sortir à chaud comme ça.
Ouais, c'est comme ça qu'on l'aime.
C'est ça, on l'aime à chaud. Waouh. Mais quelle était la vanne de Thomas? Quelle vanne dégueulasse pouvait sortir Thomas?
On vous laisse essayer de la découvrir sur les réseaux sociaux. Plus si vous vous en approchez, on donne des indices.
Alors c'est une vanne explicite sur le film Swallow, voilà. Soit dit en passant, Swallow, à un moment, enfin, si tous les titres qu'on pouvait faire, sortis du contexte, Swallow quand même.
Mais sans avoir besoin de le sortir de son contexte, hein, même dedans, eux, ils faisaient déjà des autovannes de titres. Donc oui, heureusement qu'on s'est pas amusé à les compter, ouais.
Quelle était cette vanne explicite et censurée de claque? Qui sera peut-être censuré de Twitter ou Facebook, qui sait. Pour se faire censurer de Twitter, faut le vouloir quand même.
Facebook aussi, hein, là ça va.
Donnez-nous votre vanne explicite sur les réseaux sociaux.